On va terminer l'émission avec notre traditionnelle revue de presse. Et on commence en Chine cette semaine parce que la Chine a adopté règles encadrant et l'utilisation des robots par intelligence artificielle pour protéger les personnes vulnérables et les aînés. On est rendu là, tout le monde. Donc, on parle vraiment de robots qui vont interagir avec les personnes, donc qui vont un peu, en guillemets, servir de proche aidant. On est rendu là. Et il faut encadrer l'utilisation de ces robots-là hein, pour permettre une utilisation qui est saine, qui est éthique. Et la Chine, à ce que j'en sais, et je ne suis pas experte en la matière, hein, mais la Chine est le premier pays qui semble adopter des règles encadrant ce type d'utilisation de robots menés par intelligence artificielle. Donc, on parle de la fin 2025, l'administration chinoise du cyberespace a publié une liste de règlements encadrant davantage le comportement de ce qu'on appelle des assistants d'IA. Donc, des assistants à la personne, hein, il faut le comprendre de cette façon-là, mais qui sont des robots menés par l'intelligence artificielle. Particulièrement pour les personnes âgées et pour les personnes mineures, hein, qui sont des personnes, évidemment, qui sont plus fragiles. À ce type d'utilisation-là. Donc, on voit vraiment ça pour le futur, bien sûr, là, pour la Chine. Donc, ils ont appelé le règlement provisoire sur la gestion des services d'interaction anthropomorphique basé sur l'intelligence artificielle. Donc, en d'autres termes, le texte vise à définir un cadre clair de ce que peuvent ou non développer les entreprises locales, donc les entreprises chinoises, qui conçoivent des produits qui s'engagent dans une interaction émotionnelle avec les humains. On parle donc de mettre l'accent sur la protection des personnes vulnérables, donc des personnes âgées et des personnes mineures, pour essayer d'éviter les dérives hein, qui seraient causées par les compagnies qui sont des compagnies, évidemment, qui cherchent le profit, hein, donc qui pourraient passer outre l'éthique ou la morale là, pour favoriser plus de profits, un peu de la même façon qu'on voit en ce moment là, sur Internet. Hein. Mais là, parce que c'est de l'intelligence artificielle et parce qu'on parle de robots qui vont servir d'assistants à la personne, c'est d'autant plus donc un sujet qui peut mener à des débordements éthiques. Et on parle aussi à des populations vulnérables, hein, comme les personnes âgées, qui vont se servir de ces robots-là là, pour briser, par exemple, leur isolement. Et donc, ça peut mener à des situations où les personnes âgées vulnérables là, sont menées à des abus, en fait. Donc, où on abuse d'eux. Entre autres, donc, on va interdire la simulation d'un proche. On va interdire le fait de mettre un proche, la voix d'un proche ou son image, par exemple d'une personne décédée, hein, pour une personne âgée d'un ancien conjoint, par exemple, pour éviter évidemment un attachement qui serait un faux attachement à un robot qui pourrait amener évidemment des dérives psychologiques importantes. On va aussi protéger la vie privée, donc. On veut éviter que les victimes donnent des informations qui sont trop personnelles. On va éviter d'indiquer clairement à l'utilisateur... On doit, pardon, indiquer clairement à l'utilisateur qu'il parle à une intelligence artificielle, donc à un robot. On doit lui rappeler de façon constante que c'est un robot, que ce n'est pas un humain. On doit évaluer l'état émotionnel et le niveau de dépendance de l'utilisateur. Donc, on devrait avoir des programmes qui sont intégrés dans les robots pour être capable d'évaluer donc l'état émotionnel, le niveau de dépendance et être capable de prévenir si le niveau de dépendance ou l'état émotionnel et lui mettre dans une situation accrue de vulnérabilité. Les compagnies devront intervenir en cas de signaux de détresse ou de signaux d'addiction. Ce sera obligatoire d'avoir des procédés d'intervention dans ces cas-là. On devra aussi offrir un bouton de sortie simple. Donc, la personne devra avoir un bouton qui est facilement accessible, qu'on va pouvoir peser pour fermer le robot d'un seul coup. Hein? Et ce sera interdit, donc, de mettre des fonctions supplémentaires pour que la personne raccroche sur le robot, c'est-à-dire de mettre des options pour que le robot soit triste qu'on le quitte ou lui demande de ne pas quitter ou lui demande de prolonger donc l'interaction avec le robot. Ce serait interdit, donc dès qu'on ferme le robot s'éteint et c'est tout. Hein, ne cherche pas à prolonger l'interaction. Et ce sera aussi, donc, ils devront aussi mettre des programmes pour les personnes mineures, un peu comme on voit là, sur les vidéos, les plateformes de vidéos comme Netflix, par exemple. Donc, un mode de protection pour les personnes mineures, ce sera donc obligatoire. Et on va avoir la désignation d'un contact en cas d'urgence pour la santé des personnes qui vont utiliser le robot. Donc, c'est encore évidemment à parfaire. On va trouver donc d'autres choses qu'on devra ajuster, mais c'est un bon pas en avant de la part de la Chine là, pour commencer à réfléchir des potentielles dérives par rapport à l'utilisation des robots, particulièrement avec des gens qui sont vulnérables. Donc, ce sera à suivre, mais c'est un début, hein, et les autres pays devront éventuellement emboîter le pas et réfléchir à cette utilisation-là. On va maintenant en France, où l'aide médicale à mourir est au cœur des débats au Sénat pour les personnes en situation d'handicap. On le sait ici au Québec, hein, l'aide médicale à mourir est maintenant quelque chose qui est possible pour les gens qui ont donc des maladies graves et qui ont un pronostic vital engagé. C'est un peu la même chose qui est en train de se débattre au Sénat. Les critères d'admissibilité qui sont proposés là, en ce moment pour le projet de loi au Sénat, c'est un âge minimum de 18 ans, être résident française ou être habitant en France de façon régulière, avoir une infection grave et incurable, souffrir d'une maladie grave et incurable et engager un pronostic vital, être en phase avancée ou terminale. Donc ça ressemble toujours au cas du Québec. Il faut avoir une volonté libre et éclairée et être capable de manifester sa volonté libre et éclairée. Jusque-là, tout va bien. Par contre, il y a des associations françaises, donc dont Éligible, qui demandent à ce qu'on revoie les critères parce qu'on fragilise directement la relation de confiance entre les patients et les procédants et les soignants et parce qu'il y a des questions éthiques, particulièrement par rapport aux gens qui ont des handicaps. Par exemple, on parle donc de remettre la responsabilité des services sur le dos des personnes en situation de handicap, donc de dire ben vaut mieux parce que mon gouvernement, ma société n'est pas capable de me donner des services adéquats et de m'inclure adéquatement, vaut mieux que je mette fin donc à ma vie. Donc pour certaines associations, c'est vraiment un problème éthique que de proposer ça et ça désengage le gouvernement, finalement, à donner des services qui ont du bon sens. Il y a aussi des critères d'éligibilité qui sont jugés comme étant trop flous. Par exemple, on juge que des personnes qui ont des maladies psychologiques, qu'on appelle des maladies en France, mais qui sont psychologiques ici au Québec, donc ils sont jugés comme étant admissibles. Mais on ne met pas en place des critères plus serrés ou une évaluation plus serrée de ces personnes-là. Alors que ces personnes-là pourraient être évidemment en état de détresse et ça pourrait donc devenir... finalement, l'aide médicale à mourir pourrait devenir une solution alors que ces personnes sont en détresse psychologique. Donc, on demande au niveau des associations de mieux contrôler l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes, entre autres, qui ont des maladies psychologiques qui pourraient être en détresse et de mieux encadrer ces personnes-là pour être sûr que leur choix est un choix à long terme et qui est un choix bien réfléchi et non fait sur le coup de l'émotion. Il y a aussi le fait, donc, les handicaps intellectuels est aussi accordé. Donc, les personnes qui ont des handicaps intellectuels peuvent demander à l'aide médicale à mourir. Et encore une fois, même combat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères d'évaluation, de critères renforcés pour permettre à ces gens-là, donc, d'avoir accès, bien sûr, mais d'avoir une meilleure surveillance aussi de leur accès et de s'assurer que ces personnes-là comprennent bien ce à quoi ils s'engagent. Donc, il faudrait mettre en place des critères plus serrés et un meilleur accompagnement des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, bien sûr, parce qu'ils sont plus vulnérables et ils doivent prendre une décision. Et il y a aussi, finalement, donc, il faut avoir un délai. Au Québec, on parle de délai de plusieurs semaines avant de pouvoir accéder à l'aide médicale à mourir. En France, on propose un délai de 2 jours. Délai que, évidemment, les associations trouvent beaucoup trop court, hein, parce que ça ne permet pas à la personne, donc, de réfléchir et d'être sûre de sa décision. Encore une fois, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables, hein, qui pourraient prendre une décision sans vraiment comprendre parce qu'ils ont une déficience intellectuelle, parce qu'ils ont des problèmes cognitifs ou parce qu'ils ont un état de détresse émotionnelle élevé. Donc, on n'est pas contre l'aide médicale à mourir en France, mais on trouve que le projet de loi qui a été déposé est incomplet et qui peut amener à des dérives au niveau du respect de la vie humaine, du respect des personnes en situation de handicap qui sont particulièrement des personnes vulnérables. Donc, c'est tout pour la revue de presse cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne semaine tout le monde.